bonjour à tous. Aujourd'hui, un des plus grands chefs militaires de l'histoire, Hannibal. Tu sais vaincre, Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. Maharbal, commandant de la cavalerie carthaginoise. Mille ans d'histoire. Hannibal vivait en exil depuis des années, quelque part en Bithynie, dans l'actuelle Turquie, quand il apprit que sa maison était encerclée par des soldats. Mais plutôt que d'être livré aux Romains, il préféra se suicider en buvant le poison qu'il portait toujours sur lui. C'était la fin, à 63 ans, d'un des plus grands capitaines de l'histoire, mort en 183 avant notre ère, la même année que son pire ennemi, Scipion l'Africain. Scipion, Hannibal, deux hommes qui, il y a 22 siècles, ont tenu entre leurs mains le destin du monde antique. Sans la victoire de Scipion sur Carthage, Rome ne serait jamais devenue un empire, et sans Hannibal, on aurait peut-être oublié Carthage, et ce moment extraordinaire où, en faisant traverser les Alpes à ses éléphants, le général carthaginois avait fait trembler le Sénat romain.
Je vous le répète, c'est seulement un fou ou un imbécile qui peut tenter de traverser les Alpes avec des milliers de soldats et un troupeau d'éléphants.
Écoutez! Écoutez!
Silence!
Hannibal est en train de passer les Alpes. Nos garnisons sont partout en fuite.
Rutanius connaît bien ces montagnes. Il retardera la marche du Carthaginois.
Les Carthaginois! Voilà les Carthaginois!
Eddie Dridi, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était en 218 avant notre ère, il y a plus de 2200 ans, un des exploits militaires les plus célèbres de l'histoire, les éléphants d'Hannibal qui franchissaient les Alpes pour attaquer Rome. C'était le début de la deuxième des trois guerres puniques qui vont opposer Rome et Carthage. Carthage dont il ne reste pratiquement aujourd'hui que des ruines, mais qui était, vous le rappelez dans un livre, Carthage et le monde punique, qui était en fait une très grande puissance à l'époque d'Hannibal. C'était même plus puissante que Rome.
Absolument. À l'époque des guerres puniques, Carthage était, et depuis plusieurs siècles, Carthage a été fondée, d'après les sources, en 814 avant Jésus-Christ, par Alissa, donc beaucoup de monde connaît l'histoire.
Par les Phéniciens, en fait.
Par les Phéniciens, oui. Plus précisément par des Tyriens. Mmh. Et depuis 814 avant Jésus-Christ jusqu'à la fin des guerres puniques, la troisième, donc, qui se conclut par la destruction définitive de Carthage, la principale puissance du bassin occidental de la Méditerranée était Carthage.
Oui, c'est assez extraordinaire puisqu'elle contrôlait, alors évidemment, la Tunisie, c'est le berceau, c'est là que se trouve Carthage, à côté de Tunis, mais il y avait aussi la Libye, l'Afrique du Nord, le pays des Numides, le sud de l'Espagne, les côtes de la Corse, les côtes de la Sardaigne et de la Sicile. C'est d'ailleurs à propos, justement, de la Sicile que va se déclencher la première des trois guerres puniques. Pourquoi dit-on guerre punique quand on parle des guerres entre Carthage et Rome ?
Ça traduit tout simplement, en fait, le point de vue qui nous est parvenu, car malheureusement, nous ne disposons pas de sources directes carthaginoises, donc phéniciennes ou puniques, nous parlant de ces guerres. Et donc, pour les Romains, ce sont les guerres puniques. Les Romains attribuent, donc, nomment les guerres qu'ils ont menées du nom de leurs ennemis.
Les puniques, hein, qu'ils appelaient comme ça. Voilà. Alors, c'est la première, elle se déclenche à cause de la Sicile. En réalité, Carthage possédait la Sicile, Rome convoite la Sicile, et c'est la raison de cette première guerre punique qui va durer 23 ans, et à l'issue de laquelle, malgré les succès du général carthaginois Hasdrubal, le père de Hannibal dont nous allons parler, eh bien, les Romains ont fini par l'emporter, essentiellement grâce à leur flotte, Eddie Dridi.
Oui, absolument, ce qui est d'ailleurs paradoxal, car les Carthaginois, en dignes descendants des Phéniciens, sont de d'hardis marins, l'empire de Carthage a été construit sur la maîtrise de la mer. Et au cours de cette première guerre punique qui se déclenche en fait en raison de mercenaires mamertins, donc qui étaient réfugiés à Messine et qui, pour se débarrasser de la garnison carthaginoise qui contrôlait Messine, font appel aux Romains, qui trouvent là une occasion inespérée de mettre un pied en Sicile. Et c'est le début de cette troisième guerre punique.
Alors cette première guerre punique, cette première se termine donc effectivement à ce moment-là. À ce moment-là, donc, le fils de Hannibal, le fils d'Hasdrubal,
d'Hamilcar,
va, et n'a que 9 ans, hein, Hannibal dont nous allons parler, il n'a que 9 ans, et alors, mais il est élevé, dit-on, par son père, dans la détestation des Romains. Il y a ce fameux serment qu'on attribue à Hannibal, alors qu'il était tout jeune, et qui aurait dit « Dès que j'en aurai l'âge, j'irai sur terre et sur mer pour chasser les Romains par le fer et par le feu. Rien ne pourra m'en détourner, ni les dieux, ni le traité qui interdit la guerre, ni la haute barrière des Alpes. » Est-ce que c'est vrai cette haine qu'aurait eu Hannibal pour les Romains très jeune ?
Oui, tout à fait. Et là aussi, nous touchons encore une fois un point particulier lorsqu'il s'agit de parler d'Hannibal et de Carthage de manière plus générale, c'est que nos sources sont pratiquement univoques. Elles sont latines, de langue latine ou grecque, mais pro-romaine. Et donc, c'est dans ce cadre qu'a été probablement reconstruit, rédigé après coup, donc cette espèce de serment qui va en fait cristalliser les choses et donc mettre en scène d'une certaine manière cette haine soi-disant attribuée à Hannibal, qui n'est probablement pas vraie, du moins elle n'a pas pris ses formes, les formes que nous relatent les sources.
En tout cas, qui expliquerait, hein, selon les Romains, les raisons justement du déclenchement de la deuxième guerre punique, lorsque Hannibal, à 26 ans, prend en Espagne la tête d'une armée très hétéroclite, avec laquelle il allait déclencher la deuxième guerre punique.
Là-bas, ce sont les Libyens. Là, les Numides. Au fond, les Ibères, les meilleurs cavaliers du monde. Et ceux-ci, ce sont mes Carthaginois, des hommes qui endurent toutes les fatigues et toutes les souffrances. Maintenant, je vais te montrer mes armes les plus puissantes. Ce sont mes éléphants, les bêtes les plus fortes que la Terre ait jamais connues. Regarde-les bien. Vois leur masse énorme. Rien ne peut les arrêter. N'aie pas peur. Ils ne sont méchants qu'au combat.
Quelle est leur tâche dans la bataille ?
La plus simple qui soit, abattre tout ce qui se trouve devant eux.
Les éléphants de Hannibal et d'Idridis étaient en quelque sorte, au fond, les premiers chars de l'histoire, encore qu'on les avait déjà utilisés, je crois qu'Alexandre en avait utilisé en Inde. Mais c'était fabuleux, ces éléphants.
Tout à fait, c'est comme vous le dites si bien, c'était effectivement des chars, en tous les cas des armes qui effrayaient l'ennemi et qui ont été, comme vous venez de le dire, donc utilisés pour la première fois, du moins dans le monde méditerranéen, par Alexandre, qui les a vus en œuvre en Inde. Et les Italiens, contrairement à ce qu'on peut souvent penser, les connaissaient déjà avant l'arrivée d'Hannibal, parce que Pyrrhus, un cousin d'Alexandre, a mené des campagnes en Italie, et donc les Italiens, de manière générale, ont eu affaire à ces éléphants. Et d'ailleurs, le premier nom qu'ils leur ont attribué, c'est bœuf lucanien.
Ah oui. Alors cela dit, ces éléphants vont quand même faire quelque chose d'extraordinaire avec Hannibal. Ils vont traverser les Alpes, même les Pyrénées, pour attaquer l'Italie. Avec une armée aussi, on l'a entendu dans cet extrait de Péplum, avec une armée très composite, hein, des Numides, c'est-à-dire des Nord-Africains. Il y avait des Libyens aussi, des Ibères, c'est-à-dire des Espagnols. Il y avait, c'était une armée de mercenaires, contrairement à l'armée d'Hannibal, contrairement à l'armée romaine.
Tout à fait, et c'est l'un des aspects qui caractérise l'armée carthaginoise. Contrairement aux armées grecques et plus tard romaines, qui étaient exclusivement constituées de citoyens, les citoyens carthaginois ne participaient pratiquement pas aux guerres, du moins les guerres sur Terre et en tant que simples fantassins. Ils avaient le commandement pour la cavalerie, les fantassins, et dans la marine, ils agissaient dans la marine.
Alors c'est une force, c'est aussi une faiblesse, parce que les révoltes de ces mercenaires, elles sont célèbres. Ils se sont souvent révoltés contre Carthage.
Tout à fait, et c'est là, peut-être, là vous pointez du doigt, peut-être l'une des principales faiblesses de Carthage et de l'armée carthaginoise, c'est qu'il n'y a ce sentiment de patriotisme, d'attachement à la terre, qu'ont ressenti les Grecs puis les Romains. Les armées carthaginoises ne l'avaient pas. Les mercenaires se battaient pour de l'argent et essayaient, dans la mesure du possible, de conserver leur vie pour profiter de cet argent.
Mais lui-même, Hannibal, est-ce qu'il se sentait justement, est-ce qu'il avait cet attachement au sol, à Carthage? Est-ce qu'on peut parler déjà d'une espèce de patriotisme carthaginois avec lui?
Il y a effectivement plus que d'un patriotisme, je parlerai d'un projet politique. Hannibal a passé plus de temps à l'extérieur de Carthage qu'à Carthage. Il est parti, comme vous venez de le dire, à 9 ans. Il y est retourné pour 5-6 ans, mais le reste de sa vie s'est passé ailleurs qu'à Carthage. Et donc, il y avait plutôt ce projet politique qui l'animait plus que cet attachement au sol.
Alors, ce projet politique qui consiste à aller porter la guerre jusqu'en Italie, ça commence en Espagne à propos d'une ville qui s'appelle Sagonte, qui était une alliée de Rome. Hannibal s'en empare et de là, il va alors mettre 5 mois avec toute son armée à traverser les Pyrénées, le sud de la France, et puis alors cette fameuse traversée des Alpes. On n'a jamais très bien su où il avait passé les Alpes, Édith Dridi.
Effectivement, le trajet est encore peu précis, mais nous savons en tous les cas, d'après les dernières recherches, qu'il a traversé le Rhône au niveau d'Orange et qu'il a traversé les Alpes vers le mont Cenis. Il a probablement débarqué de l'autre côté des Alpes sur les hauteurs de Turin. Il a probablement traversé Turin.
Ça avait beaucoup intrigué quelqu'un qui les a traversés à plusieurs reprises, qui était Napoléon, qui était évidemment fasciné par le personnage de Hannibal. Alors, il dévale justement dans le nord de l'Italie. C'est pas encore Rome. À l'époque, c'était les Gaulois. Rome ne contrôle en fait à l'époque que les deux tiers sud au fond de la botte italienne, c'est tout. Et donc, il traverse ce pays gaulois. Il va même enrôler, je crois, un certain nombre de Gaulois, s'allier avec eux, descendre le long de la botte italienne, remporter deux victoires importantes sur les Romains, l'Atrébie en Émilie, et puis au lac Trasimène. Et là, les Romains mesurent la puissance de cette armée carthaginoise et la stratégie d'Hannibal.
Absolument. Hannibal traverse pratiquement dans la même année, ou disons en 2 ans, il part d'Espagne, traverse les Pyrénées, les Alpes, et inflige 2 défaites aux Romains. C'est véritablement l'expression d'une guerre éclair. Les Romains sont sous le choc. Ils ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Ils ne pensaient pas être aussi vulnérables, et surtout de la part de Carthage, qui venait de mettre pratiquement à genoux à l'issue de la Première Guerre punique.
Alors, ils ont peur, mais ils comprennent ça d'autant moins bien, Édith Dridi, qu'au lieu de s'en prendre à Rome, d'aller directement vers la ville de Rome, qui semble désormais extrêmement vulnérable, eh bien, Hannibal et son armée contournent la ville par l'est pour arriver le 2 août 216 sur les lieux de ce qui sera une des plus grandes batailles de toute l'histoire, la bataille de Cannes.
De cette journée dépend le destin de Carthage. Si la bataille est perdue, un grand nombre d'entre nous seront anéantis et les autres seront réduits en esclavage. Mais si nous vainquons, nous serons maîtres de la ville de Rome et de tout son empire.
Hannibal, les Romains commencent à avancer.
Que le centre se replie et cède du terrain, les Romains vont donner dans le piège. Allez tous rejoindre vos commandants. Et qu'aucun soldat romain ne quitte Cannes vivant.
Les Carthaginois font un mouvement de retraite.
Le moment est arrivé. Marchons à la bataille. Nous enfoncerons leurs lignes.
Conduisez-moi à Paulus Emilius.
Bien des pères ont à pleurer un fils aujourd'hui. Les dieux ont voulu châtier les Romains.
Et c'était un autre extrait d'un péplum de Carlo Ludovico Bragaglia, Hannibal, hein, qui en 216 remportait sur les Romains, ce qui, dites-vous, est une des plus grandes batailles de l'histoire. Cannes, précisons-le tout de suite, ce n'est pas sur la Côte d'Azur, hein, ce n'est pas la Croisette, mais c'est tout à fait au sud de la botte italienne, dans les Pouilles. Pourquoi est-ce que c'est une des plus grandes batailles de l'histoire, selon vous, Eddy Dridi ?
Alors, plusieurs éléments. Le premier, à cause du nombre de soldats engagés dans cette bataille qui frôle les 150 000, du moins pour les fantassins déjà, entre Carthaginois et Romains. Un autre aspect, c'est cette impression que c'est, et c'est une réalité, que c'est un moment clé de la guerre menée par Hannibal en Italie. Rome pense en finir à l'issue de cette bataille et expulser Hannibal. Et pour Hannibal, c'est l'occasion ou jamais de mettre à terre Rome et d'entamer la deuxième partie de son plan qui est plutôt diplomatique.
Il y a aussi le carnage. Alors, je ne sais pas si les historiens romains qui ont raconté cette bataille exagèrent. Ils ont parlé de 70 000 morts du côté romain, dont un des deux consuls qui commandait l'armée romaine, qui est Paul Émile, l'autre étant Varron, qui rentrera piteusement à Rome. C'est évidemment une perte tout à fait considérable, Eddy Dridi.
Absolument.
On a rarement vu ça dans l'histoire.
Tout à fait, c'était un véritable massacre. D'une part à cette espèce d'inconscience de la part du commandement romain et bien sûr au génie d'Hannibal, à la stratégie employée par Hannibal qui a fait que les soldats romains se sont trouvés pris dans une nasse et qu'ils avaient très peu de chances de s'en sortir.
On dit que cette stratégie était tellement exceptionnelle qu'elle est encore enseignée aujourd'hui dans les écoles militaires 2200 ans après. Hein, C'est assez impressionnant. Alors, stratège, évidemment, c'est un grand stratège, Hannibal. Il y a le chef de sa cavalerie qui disait « Tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de ta victoire ». On l'a entendu en début d'émission, et ça, c'est vraiment tout ce qui caractérise Hannibal. Car, au lieu, après toute l'armée romaine est écrasée, il n'en reste, elle était pulvérisée, au lieu d'aller à Rome, il n'y va pas. Alors là, on n'a pas compris pourquoi. Il était resté en quelque sorte l'arme au pied. Et pendant 13 ans, c'est assez extraordinaire quand même quand on y pense, entre le moment de la bataille de Cannes et le moment où il quittera l'Italie, 13 ans en Italie sans jamais menacer Rome. Ça, c'est quelque chose qui paraît incompréhensible, Eddy Dridi.
Tout à fait. Et c'est une question qui a tourmenté des générations d'historiens. Pourquoi Hannibal n'a rien tenté contre Rome? En avait-il les moyens, d'abord, une question? L'armée d'Hannibal.
Bah, il vient d'écraser cette armée romaine.
Mais l'armée d'Hannibal était une armée adaptée pour les guerres en plaine, mais peut-être pas adaptée à mettre le siège devant une ville de l'importance de Rome. D'autre part, ce n'était peut-être pas l'objectif d'Hannibal. Il ne voulait pas détruire Rome, ce qui remet par ailleurs en question ce fameux serment. Peut-être que son objectif était d'isoler Rome, ou du moins de la cantonner dans le Latium, et de se garder cette Italie du Sud, de culture grecque, et beaucoup plus proche de Carthage.
Oui, parce que vous le dites, il cherche à isoler Rome, c'est-à-dire en privant Rome des alliés qu'elle avait conquis, mais qu'elle venait à peine de conquérir en Italie du Sud. Rome, quelques dizaines d'années auparavant, c'était simplement la capitale. Et puis petit à petit, elle a commencé à s'étendre dans l'Italie du Sud auprès de peuples italiens qui venaient à peine d'être conquis. C'est bien ce que s'est dit Hannibal au fond, si je vous ai bien compris, Eddy Dridi, c'est qu'il allait faire éclater cette alliance que les Romains avaient conclue avec les autres Italiens de ce qui n'était même pas encore un empire.
Tout à fait. L'Italie, à l'époque d'Hannibal, est une mosaïque de peuples qui ne parlent même pas la même langue. Dans le sud, vous avez les Samnites, les vieilles cités d'origine grecque. Comme vous le dites si bien, c'est une alliance jeune. Et donc Hannibal, le projet d'Hannibal, c'était de briser cette alliance, de constituer une sorte de glacis, de protectorat carthaginois dans le sud de l'Italie, ce qui permettrait à sa cité de reprendre les cartes. En Méditerranée.
Et c'est pour ça qu'au lieu de se battre à Rome, il préfère négocier la soumission de toutes les villes de l'Italie, comme celle dont les célèbres délices ont, paraît-il, fait perdre sa combativité à l'armée carthaginoise.
Hannibal, tu ne viens pas à Capoue ? On donne une fête en ton honneur.
Ne serait-ce pas plutôt en ton honneur à toi ?
Je vais en avant, Hannibal, je t'attendrai. Relâchement va leur faire perdre leur ardeur belliqueuse.
Laisse-les se reposer quelque temps. Quand Asdrubal et Marabal reviendront de Carthage, nous reprendrons la lutte.
Ce sera la bataille décisive et il faudra la remporter. Sois sans crainte.
Ah, les délices de Capoue, est-ce que c'est une réalité, Elidridi ?
Oh, j'ai des doutes. Ouais. Ce qui est certain, en tous les cas, c'est que cette période d'inactivité, d'inaction peut-être forcée, n'a pas fait du bien à l'armée carthaginoise.
Alors, d'autant plus que à cette époque-là, eh bien, Hannibal, les Carthaginois à Carthage, là-bas en Tunisie, semblent l'avoir totalement oublié et même l'avoir en quelque sorte abandonné. Ils se retrouvent tout seuls, pratiquement sans renforts, qui sont envoyés par Carthage. On n'est pas tellement d'accord sur la poursuite du conflit. Je crois qu'il est un peu abandonné par les siens, par son pays, par sa patrie, Edidridi.
Tout à fait. Et c'est là un aspect aussi, l'un des paramètres qui ont joué en défaveur de Carthage, c'est qu'il y a les Barcides, de manière générale, c'est-à-dire la famille d'Hannibal, la famille d'Amilcar Barca, son père, ont été constamment en lutte contre l'oligarchie au pouvoir. Il y avait en tous les cas un parti conservateur qui ne partageait pas du tout les vues des Barcides et qui voulait conserver ses acquis et ne pas chercher à envenimer d'une certaine manière les choses, de peur de perdre en fait leurs acquis.
Donc on laisse Hannibal moisir en Italie, et il y a son frère Hasdrubal qui essaye de venir le sauver, il est tué, enfin bref, tout ça, ça dure. Et alors les Romains de leur côté, ils reconstituent leur armée, puis ils comprennent qu'au lieu de se battre dans de grands engagements militaires, ils pratiquent en Italie une guerre de harcèlement, et surtout, c'est là qu'apparaît un homme extraordinaire, c'est qu'ils envoient un jeune consul pour attaquer Hannibal, enfin pour attaquer les Carthaginois, non pas en Italie où se trouve Hannibal, mais Scipion va les attaquer en Espagne et puis va les attaquer même en Afrique, d'où son nom Scipion l'Africain, et c'est lui qui finira par clore victorieusement pour les Romains cette guerre punique par la bataille de Zama. Curieusement d'ailleurs, Scipion se trouve en face de Hannibal qui a été rappelé d'urgence à Carthage, et c'est la bataille de Zama, défaite de Hannibal, la première d'ailleurs, mais qui met un terme à la guerre punique. Et à ce moment-là, à la deuxième guerre punique, et à ce moment-là, chose curieuse, Hannibal reste quand même assez populaire. Il est à Carthage, il est nommé suffète, c'est-à-dire l'équivalent à peu près d'un consul romain. Et puis il va être obligé de partir en exil très loin, parce que justement l'oligarchie ne l'aime pas.
Absolument. Et c'est pour revenir en premier lieu à Scipion, l'un des aspects très intéressants, c'est que Scipion, qui a par ailleurs participé à la défaite de Cannes, a mis en pratique la propre politique d'Hannibal, c'est-à-dire porter la guerre chez l'ennemi. Et le premier ennemi, la source, est Carthagène en Espagne, pour priver Hannibal de sa base. Puis, comme vous le dites, passé en Afrique, et là, Hannibal s'est trouvé obligé de rentrer chez lui pour défendre sa ville.
Et défendre et perdre cette bataille. Donc Hannibal part en exil très long, pendant une dizaine d'années, parce que les Carthaginois ne veulent plus de lui, en tout cas certains Carthaginois. Il se suicide en 183. Il ne verra pas, heureusement pour lui, si on peut dire, la troisième guerre punique, celle par laquelle Carthage sera totalement détruite, car elle faisait encore peur aux Romains. Et c'est d'ailleurs un autre Scipion, Scipion l'Émilien, qui va détruire Carthage. On dit que ça, c'était en 149, je crois, en 147, pardon, avant notre ère. On dit même qu'on a mis du sabre, on a détruit Carthage, on a mis du sabre, du sel, pour que plus rien ne soit reconstruit dessus.
Oui, à l'issue de la deuxième guerre punique et donc la défaite d'Hannibal, Carthage doit accepter des conditions de paix très lourdes, une grande indemnité à payer à Rome.
Et destruction elle de sa flotte aussi.
Absolument, ouais. Devant les Carthaginois, c'est-à-dire destruction de leur propre puissance. Et Carthage, débarrassé de cet effort de guerre, va reprendre le commerce, va pouvoir s'acquitter même de ses dettes très tôt.
Et donc faire peur aux Romains qui la détruisent définitivement bien après la mort d'Hannibal en 147. On peut se demander quand même, imaginons qu'Hannibal ait gagné la guerre, ça bouleversait complètement, mais complètement, définitivement la guerre, complètement l'histoire de l'Antiquité. L'Empire romain n'aurait peut-être pas existé, Edidridi.
Ah oui, tout à fait. Car au-delà de l'opposition entre Carthage et Rome, ce sont deux visions du monde qui se sont affrontées. Rome avait en germe, d'une certaine manière, cet empire, et Carthage avait une autre vision de la Méditerranée, peut-être beaucoup plus fragmentée, composée d'entités qui coopéreraient entre elles, mais pas cet empire à la romaine.
Non, puis surtout, Carthage aurait empêché son expansion, il n'aurait jamais existé. Je sais bien que vous ne faites pas histoire avec des cibles, c'est important. Dites-moi, Edith Ridley, vous êtes d'origine tunisienne. Que représente un homme comme Hannibal dans le pays, justement, où se trouvait Carthage en Tunisie? Est-ce qu'aujourd'hui encore, ça évoque quelque chose pour un Tunisien?
Eh bien, pour nous, Hannibal, c'est avant tout un symbole de fierté d'être tunisien et en particulier de se dire que cette vieille terre de Tunisie est capable de produire, de faire naître des hommes capables de peser sur le monde. Et en Tunisie, Hannibal jouit bien sûr d'une grande popularité et pour le Tunisien moyen, lui parler d'Hannibal, ça évoque pour lui, bien sûr, toute la grandeur de Carthage.
La Tunisie qui était indépendante il y a 50 ans exactement. Nous en parlerons d'ailleurs très prochainement dans notre émission. En attendant, Edith Ridley, je recommande la lecture de votre livre « Carthage et le monde punique » édité aux Belles Lettres dans la collection « Guide Belles Lettres des civilisations ». Vous avez pu entendre des extraits du film « Hannibal » de Carlo Ludovico Bragaglia, disponible en VHS chez Hollywood Vidéo. La question du jour aujourd'hui pour gagner, comme vous pouvez le faire pendant 6 semaines, les 20 volumes de l'histoire universelle du Figaro en partenariat avec France Inter. Combien d'années a duré la première guerre punique entre Rome et Carthage? 13 ans, 23 ans ou 33 ans? Pour gagner les 20 volumes de l'histoire universelle dans lesquels on trouve aussi la réponse, il vous suffit de téléphoner au 3230, 34 centimes d'euros la minute, ou de suivre les indications qui vous seront données. Inutile d'essayer de jouer par Internet ou en téléphonant au standard de France Inter que vous feriez exploser. Je répète donc la question du jour. Combien d'années a duré la première guerre punique? 13 ans, 23 ans ou 33 ans? Le 3230 aussi, vous pouvez également retrouver tous les renseignements concernant cette émission. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation Claire Tesser, Claire Destacan et Mathieu Ménocine, réalisation de Anne Kobilac. Demain et après-demain, dans 2000 ans d'histoire, à la veille de la fête de la Saint-Patrick, une histoire des Irlandais.